Présente dans 15 pays d'Afrique, Suno Assurance vous souhaite une belle année 2018 pleine d'assurance et vous propose Priorité Santé. Suno Assurance, notre métier, l'assurance.
Priorité Santé. Igor Strauss.
Bonjour à tous et bienvenue dans Priorité Santé. Alors que la mortalité due à la tuberculose ou au VIH diminue dans le monde, les hépatites virales continuent de tuer toujours davantage. Selon les estimations de l'OMS, plus d'1 300 000 personnes en seraient victimes chaque année. Un chiffre inquiétant quand on sait que la population mondiale augmente et que le nombre de porteurs chroniques des hépatites B et C, estimé à 328 millions aujourd'hui, pourrait lui aussi augmenter. La lutte contre les hépatites virales et donc un enjeu de santé publique majeur, mais difficile, car on parle là de maladies silencieuses. Seul un malade sur 20 connaît son statut. Dès lors, comment améliorer le dépistage? Autre chiffre parlant, aujourd'hui, seul 1% des malades a accès au traitement. Alors, comment les rendre plus accessibles et à quel prix? C'est ce que nous allons voir avec nos invités de passage à Paris pour la 11e édition de la Conférence internationale des pathologies qui débute aujourd'hui même. Et bien sûr, nous attendons vos questions, vos réactions au 33 1 84 22 75 75. Docteur Pascal Mélin, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chef du service de médecine interne du centre hospitalier de Saint-Dizier, c'est en Champagne, et président de SOS Hépatite Fédération, merci d'être parmi nous, et professeur Roger Sombier, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes gastro-entérologue et hépatologue à l'hôpital Yalgado Ouédraogo à Ouagadougou au Burkina Faso. Merci tous les deux d'avoir accepté cette invitation. Commençons peut-être, messieurs, avec un petit peu de pédagogie, tout simplement. Il existe 5 types de virus de l'hépatite désignés par des lettres, hein, A, B, C, D, E. Quelles sont leurs différences et leurs particularités, professeur Sombier?
Alors effectivement, il y a 5 hépatites principales, dites à tropisme, donc hépatique, avec des lettres allant de A à E. Donc les particularités, c'est qu'en fait, les virus B, C et D, D pour Delta, ce sont des virus en fait donc qui vont être transmis essentiellement donc par voie sanguine et ou sexuelle. Et donc, ils ont la particularité donc d'avoir une longue durée d'évolution au niveau du foie. C'est ce qu'on appelle donc des infections chroniques. Alors que les hépatites A et E donc seront transmises en fait par l'eau et les aliments. Ce sont des infections à transmission entérale. En général, elles sont bénignes et n'évoluent pas donc vers la chronicité. Elles sont donc, on va dire, moins graves et moins mortelles que les formes B, C et D.
Alors, Pascal Mélin, à terme, les risques, c'est quoi? C'est les cirrhoses et cancers du foie, c'est ça?
Oui, tout à
pour
fait.
Pour les BSC notamment, hein.
Tout à fait. On sait que 20 à 30% des gens qui ont une maladie chronique vont évoluer vers une forme particulièrement grave avec la cirrhose et parfois le cancer du foie qui est, comme vous l'avez dit, responsable d'1 300 000 morts par an sur la planète.
Et ce chiffre continue d'augmenter, c'est inquiétant ça quand même, non?
Oui, ça continue d'augmenter parce que dans les dernières années, ça n'a pas été notre priorité. Le Fonds mondial a lutté contre la tuberculose, le VIH, la malaria, et on a oublié les hépatites virales qui viennent d'être ajoutées, mais sans ligne budgétaire, aujourd'hui, il y a très peu d'actions cohérentes qui sont faites à l'échelon international.
Et ça, on va y revenir bien évidemment. Roger Sombier, les cancers du foie touchent particulièrement l'Afrique, et ces cancers apparaissent à un jeune âge. Comment on l'explique ça?
C'est dramatique. C'est le cancer du foie, c'est mon quotidien. Ben, l'explication est très simple, en fait. La première cause de cancer du foie dans le monde, c'est lié au virus de l'hépatite B. Donc, ça va faire 80% donc dans le monde et les 80% vont siéger, en fait, en Afrique subsaharienne. Donc, en Afrique, l'infection est endémique pour le virus de l'hépatite B. Dans mon pays, c'est une fréquence de 10 à 15%. Et la plupart, en fait, des gens sont infectés très tôt dans la vie. C'est une transmission essentiellement de la mère à l'enfant. C'est-à-dire que le virus donc va être transmis à l'enfant de façon silencieuse à la naissance ou avant 5 ans. Et donc, il aura donc une longue durée d'infection. On sait que le virus, il est cancérigène. Et ce qui va se passer, le malade va avoir donc une inflammation, c'est-à-dire une agression de son foie de façon silencieuse, avec donc ce qu'on appelle donc la nécrose et de la fibrose, qui est une cicatrice fibreuse qui déforme l'architecture et empêche le bon fonctionnement du foie qui va faire le lit du cancer. Et hélas, malheureusement, nous voyons au quotidien donc des patients qui arrivent trop tard avec un cancer du foie à 20 ans, 30 ans, 40 ans.
Alors on va revenir sur...
Docteur Mélin. Pour enfoncer le clou et pour que tout le monde comprenne bien l'absurdité de ce qui se passe, la première cause de cancer induit sur la planète, tout le monde le sait, c'est le tabac. Et voyez bien la lutte qu'on est capable de mettre pour lutter contre le tabac. La deuxième cause de cancer sur la planète, c'est le virus de l'hépatite B et les cancers du foie. Et il n'y a rien alors qu'on a un vaccin. C'est-à-dire qu'on aurait pu imaginer, comme pour la variole, faire disparaître l'hépatite B de la planète. Et ça nécessite d'avoir des stratégies de vaccination pour qu'aucun nourrisson n'y échappe et qu'on soit cohérent sur la planète en vaccinant tout le monde.
Mais alors, il n'y a rien. Mais comment vous l'expliquez? Ça fait longtemps qu'on a dressé ce constat plus d'1 300 000 morts. Comment expliquez-vous ce manque d'action?
Ce manque d'action, c'est en fait parce que dans certains pays africains, quand on a rencontré des responsables, ils nous ont dit... Pour moi, la mortalité infantile, ça va être la rougeole, ça va être la rubéole. Ma priorité n'est pas l'hépatite B. Donc c'est la prise de conscience à l'échelon mondial. L'hépatite B, c'est pas une maladie dont il faut se protéger dans les pays riches. C'est une maladie dont il faut se protéger partout pour bloquer l'épidémie. Parce qu'aujourd'hui, les flux migratoires font que les gens circulent et qu'on peut se contaminer à n'importe quel moment de sa vie. En naissant d'une mère porteuse, mais aussi en ayant des relations sexuelles à l'âge adulte. Donc aujourd'hui, l'important, c'est de vacciner tout le monde et d'avoir une stratégie de vaccination de tous les nourrissons.
Et justement, pourquoi est-ce qu'elle n'est pas faite? Aujourd'hui, il y a 52 millions d'enfants porteurs d'hépatite B et c'est 48 millions d'hépatite B alors qu'il y a un vaccin. Comment expliquez-vous ce chiffre énorme de jeunes enfants atteints de l'hépatite B, professeur Sombier?
Alors, le vaccin, il a été découvert en 81, et si vous voulez, depuis, en fait, 2008, dans la plupart des pays africains, donc, il est intégré maintenant au programme national de vaccination, afin de prévenir cette transmission mère-enfant. Mais il y a encore des progrès à faire à ce niveau, au niveau du calendrier vaccinal. Parce que la recommandation de bonne pratique OMS dans les pays occidentaux, le vaccin doit se faire le plus tôt possible.
Dans les 24 heures suivant la naissance.
24 heures suivant la naissance. Alors qu'en pratique, dans la plupart des pays africains, le vaccin est fait au plus tôt à 6 semaines et dans mon pays, c'est fait à 8 semaines.
Alors, déjà, deux questions. Pourquoi est-ce qu'il est important de faire la vaccination dans les 24 heures suivant la naissance? Et puis, on reviendra ensuite avec vous, professeur Sombier, sur le constat en Afrique. Pourquoi est-ce que ce n'est pas fait? D'abord, docteur Mélin, pourquoi est-ce qu'il faut la faire à 24 heures suivant la naissance, cette vaccination?
Alors parce qu'on s'est rendu compte que le plus tôt, même si une mère est porteuse de l'hépatite B, si on vaccine son enfant à la naissance, on va l'aider à bloquer le virus et à ne pas se contaminer. Donc même si on ne peut pas faire le dépistage idéal, ce serait de dépister toutes les femmes enceintes au cours du troisième trimestre, c'est ce qui est fait dans les pays riches, et de prendre les dispositions nécessaires, mais au minimum, il faut pouvoir vacciner très tôt les enfants pour bloquer comme ça l'épidémie. Et c'est ça qui n'est pas fait, parce que si on recule à 6 semaines ou à 8 semaines, on a déjà des pertes de vue, et il y a déjà des enfants qui vont être contaminés pendant cette période-là, dû à leur maman.
Alors justement, professeur Sombier, comment expliquez-vous que les États d'Afrique subsaharienne continuent à vacciner dans les deux mois après la naissance? Je crois que seul le Sénégal a décidé de vacciner les enfants dans les 24 heures. Pourquoi pas le Burkina? Pourquoi pas les autres?
Ben, la principale raison est financière, tout simplement, parce que nos gouvernements ont plusieurs priorités. Et le vaccin, il coûte cher et je crois que c'est...
Mais le faire dans les 24 heures ou dans les deux premiers mois, c'est pareil, c'est un vaccin. Non,
c'est un vaccin, mais qui nécessite en fait une chaîne de foie, une certaine stabilité. Donc, je crois que c'est des paramètres en fait qu'il faut régler. Et c'est des vaccins qui, pour l'instant, ce que nous avons dans nos pays sont des vaccins combinés. Ils ont fait un vaccin pentavalent, donc qui est combiné avec d'autres vaccins qui, eux, ne peuvent pas être faits donc chez l'enfant à la naissance. Donc pour ça, il faut donc extraire le vaccin du virus de l'hépatite B pour pouvoir le faire à la naissance, parce que quand il est combiné donc à d'autres vaccins, ils ne peuvent pas être faits donc le jour de la naissance à l'enfant.
Est-ce que le dépistage est fait systématiquement chez les femmes enceintes?
Non, dans mon pays, c'est pas fait systématiquement chez les femmes enceintes et ça devrait être une obligation.
En Europe, comment ça se passe, docteur Mélin? C'est ça, c'est systématique maintenant là?
C'est systématique, oui, au dernier trimestre, et on prend des précautions quand la mère, on va même jusqu'à dire que c'est légal, et on peut lui théoriquement supprimer les allocations de grossesse si elle fait pas ces dépistages-là, et on va pouvoir regarder exactement et évaluer les risques de transmission de la mère à l'enfant, et pourquoi pas, ce qui se fait dans les pays riches, mettre un traitement à la maman pour faire baisser la charge virale et éviter la contamination, en plus de la vaccination du nourrisson, et de lui donner un sérum anti-hépatite B. Donc on a aujourd'hui, dans les pays riches, on a trois armes. On a le vaccin, le sérum et les traitements. Au minimum, dans les pays en voie de développement, et particulièrement en Afrique, ce serait le vaccin. Ça fait 80% du job, il faut pas s'en priver.
Mais alors justement, pour vacciner, il faut aussi avoir les moyens. Comment expliquez-vous ce manque des moyens ? C'est des choix ? Les États ont plus investi dans d'autres pathologies, ont négligé les hépatites ? Comment vous l'expliquez ça, professeur Sombier ?
Ben, le problème, c'est que dans nos États, au niveau de chaque ministère, ben, chaque ministère a ses problèmes et les lignes budgétaires, en fait, qui sont donc, on va dire, attribuées au ministère de la Santé. Je crois que on demande un minimum, en fait, donc, qui doit être attribué, donc, dans les différentes charge gouvernementale, mais en réalité le minimum même qui doit être attribué au ministère de la Santé pour en faire face donc aux défis, même il ne l'a pas en fait le plus souvent.
Docteur Mélin.
Je vais répondre sur, ça paraît anecdotique, mais l'histoire du vaccin pentavalent, qui est des vaccins qui sont produits logiquement, qui ont une stratégie, on donne des vaccins pentavalents, ça on sait faire. Pour autant, vacciner contre la diphtérie, le tétanos, la coqueluche, la polio, etc., qui sont dans les vaccins pentavalents, l'idéal, c'est effectivement de vacciner au bout de quelques mois. Et en faisant l'hépatite B à ce moment-là, on arrive à être dans quelque chose de moyen. On vaccine moyennement, on fait un mixte entre différentes maladies. Et on fait quelque chose de moyen. Et on peut pas se contenter de quelque chose de moyen pour bloquer l'hépatite B. Il faut extraire du vaccin pentavalent l'hépatite B et avoir des stratégies isolées de lutte contre l'hépatite B. On ne peut pas avoir, comme on l'a fait en France, des vaccins, vous avez bien vu, nous, avec 11 vaccins obligatoires, on va pouvoir faire un mix avec tout ça. Là, en Afrique, si on veut lutter correctement contre l'hépatite B et la transmission mère-enfant, il faut isoler le vaccin. Il faudra donc piquer plusieurs fois les enfants.
C'est trois fois, c'est ça à peu près, non?
Oui, c'est trois injections.
Trois injections.
Exact.
On est en train de dire que peut-être que deux seraient suffisantes. Donc, je veux dire, faut sauter sur des choses comme ça. Ça va être hyper intéressant. Mais il faut que les industries qui produisent les vaccins aient une réflexion sur la production de vaccins adaptés à l'épidémie africaine. On n'est pas là pour faire des vaccins mondiaux. Il va falloir s'adapter en production de vaccins à chaque pays.
Est-ce qu'on peut vacciner à l'âge adulte pour ceux qui auraient échappé justement à la vaccination enfant?
Oui, professeur Sombier. Oui, c'est un vaccin qui a une innocuité totale,
avec
bien
la même
tolérée,
efficacité.
Avec la même efficacité, quoique on sait que l'efficacité est meilleure. Donc, chez le nouveau-né, l'enfant, plus on est jeune, on a une meilleure réaction immunitaire. Plus on prend de l'âge, moins c'est bon. Mais sinon, ça marche tout aussi bien. Et donc, avec une excellente tolérance chez les adultes comme chez les enfants.
Pascal Melun, selon l'OMS, la couverture vaccinale a augmenté. Mais d'autres interventions pour lutter contre l'hépatite B et l'hépatite C n'ont pas été suffisamment mises en œuvre. Auxquelles vous pensez? Qu'est-ce qu'on pourrait, à part la vaccination, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Qu'est-ce qu'on pourrait mettre en œuvre, justement?
Alors, à SOS hépatite, il y a par exemple quelque chose qu'on dénonce. On sait qu'il y a 1 700 000 personnes qui contractent l'hépatite C chaque année, et on dit qu'aujourd'hui, ça se transmet par le sang, il y a le problème des seringues. Et nous, quand on pense seringue dans un pays développé, on pense seringue toxicomanie. Et en fait, on sait que dans les pays africains, le problème de la seringue, ça va être aussi la seringue médicale et de l'usage multiple. Donc la seringue à usage unique, bêtement, la seringue à usage unique, une seringue, on l'utilise qu'une seule fois et après elle est détruite. C'est fondamental de pouvoir ça vers les toxicomanes dans les pays développés pour qu'il n'y ait plus de contamination.
Mais ça, on reparlera de la réduction des risques parce que c'est un enjeu majeur et effectivement, il faut que les États africains s'y mettent. Hein.
Mais l'usage unique
dans les
médical,
hôpitaux également.
Dans les hôpitaux en Afrique, c'est fondamental pour lutter contre l'hépatite B aussi.
Donc une des solutions qui pourrait justement apporter une pierre à l'édifice de la lutte contre ces hépatites. Lors de la 69e Assemblée mondiale de la santé à Genève, c'était en mai 2016, les 194 États membres de l'Organisation mondiale de la santé ont adopté une stratégie visant à l'élimination des hépatites virales d'ici 2030, reconnaissant ainsi la grave menace sur la santé publique. C'est vraiment réalisable selon vous l'élimination, professeur Sombier ? Ou c'est un rêve inaccessible?
Non, c'est pas un rêve inaccessible. Je crois que c'est déjà un premier pas. Donc, je crois que c'est des objectifs qu'on se donne. Il faut maintenant se donner les moyens, donc, de les atteindre. Donc,
parce que là, on dresse un constat plutôt accablant et on parle déjà d'élimination en 2030. Alors, il faut se fixer des objectifs élevés, mais qu'en pensez-vous, docteur Mélin?
Un jour, il y a des gens qui ont rêvé qu'il y aurait plus la variole sur la planète. On les a pris pour des fous et on a réussi. Moi, je pense que l'homme, pour vivre, il a besoin de rêves. Et on a besoin de rêver l'élimination pour 2030 pour pousser nos politiques à avoir des stratégies. Ça prendra peut-être un peu plus de temps. Pour autant, l'Islande a déjà fait la moitié du chemin. Ils ont dépisté la population. En France,
il y a 9 pays qui sont sur la bonne voie.
Oui.
Un seul pays africain, l'Égypte, et 2 européens, l'Allemagne et les Pays-Bas. Bon, on pourrait ajouter l'Australie, le Japon. Mais c'est peu quand même sur ces 194 États.
C'est peu, mais c'est un exemple. Ça veut dire que c'est possible. Et c'est ça qui est intéressant. Et je veux dire, nous, en France, on est en train de rentrer sur le même chemin. Tout à l'heure, on va présenter le baromètre pour compter les guérisons. On est à 50 guérisons par jour. C'est-à-dire un malade toutes les 30 minutes est guéri de l'hépatite C en France. Et je crois que ça, c'est hyper intéressant. On a divisé par 3 le nombre de personnes porteurs chroniques en France de l'hépatite C en 20 ans. Il faut continuer ce combat. Et ce qu'on a appris, il faut le transmettre. C'est ce qu'on a fait avec l'Égypte, mais il faut le faire beaucoup plus loin.
Mais dans les pays africains, c'est un autre problème. Je crois que le Bénin a adopté des lois, justement, en septembre dernier, pour lutter contre les hépatites. Mais rares sont les pays à investir vraiment contre ces hépatites, professeur Sambier.
Ben oui, ça reste sous le problème donc de financement. Personnellement, dans mon pays, ça fait plus de 5 ans donc, que nous luttons pour la mise en place d'un plan stratégique de lutte contre les hépatites virales. Donc jusqu'à présent, ce n'est pas une réalité. C'est en bonne voie, ça va tout doucement. Mais clairement, il faut un plan stratégique de lutte qui va permettre de montrer l'engagement donc des politiques du gouvernement donc pour faire face à ce fléau là. Donc il y a un nombre de pays africains qui ont des plans qui sont pas très effectifs ou qui sont pas très efficaces, toujours par le manque de moyens financiers en fait.
Mais vous, quand vous allez dans les ministères, le ministère de la Santé au Burkina, est-ce que le ministre ou les personnes en charge de ces pathologies sont conscients de ce problème?
Ils sont conscients, ça a commencé à bouger, donc j'ai d'excellents rapports avec donc la direction de la lutte contre la maladie, donc il y a un coordonnateur qui est en charge du plan que nous sommes en train de mettre en place, donc ils sont tout à fait conscients, mais le vrai problème c'est toujours donc de pouvoir réunir les fonds donc pour un d'abord faire donc si vous voulez un état des lieux. Donc disponibiliser si vous voulez donc les stratégies de prévention, de diagnostic avant si vous voulez maintenant donc d'aller donc à large échelle au niveau du public pour cela. Donc et c'est ce qui n'est pas encore fait jusqu'à présent.
Docteur Mélin,
c'est là où les malades ont aussi un mot à dire. SOS Hépatite, qui a été une association de patients, qui a revendiqué des choses en France, qui a rêvé de l'éradication, eh ben on est très fiers de savoir qu'il y a SOS Hépatite aussi au Burkina, qu'il y a des gens qui se mobilisent. Ça fait tache d'huile, c'est-à-dire que les malades sont aujourd'hui capables de venir impacter sur les décisions politiques, exiger des choses de leur gouvernement, et ça je crois que c'est intéressant. Et il y a d'autres façons, nous par exemple avec notre campagne Savoir c'est guérir, sur lequel on peut trouver le site, on a décidé que ça pouvait être la musique. Julie, notre marraine qui fait une chanson pour appeler les gens au dépistage, Savoir c'est guérir, on peut pas guérir tant qu'on sait pas qu'on est malade.
Mais justement, vous touchez là un problème fondamental, beaucoup de patients ne savent pas qu'ils sont malades.
On est d'accord.
On pourrait, s'ils étaient au courant, qu'ils se réunissaient, ça pourrait justement appuyer la lutte.
Exactement. Alors, on a trop souvent considéré que savoir qu'on était malade, s'il y avait rien à faire, ça valait pas le coup. Ça faisait que être une double peine pour le patient de savoir qu'il était atteint de quelque chose, mais qu'il pouvait pas soigner.
On a beaucoup dit ça pour le sida notamment.
Exactement.
Mais pour les hépatites, on a des solutions.
Exactement. Donc, je veux dire, c'est plus quelque chose d'entendable. Il vaut mieux ne pas savoir. Je veux plus l'entendre. Il vaut mieux savoir pour limiter l'épidémie et pour tendre la main aux autres, éviter de contaminer et réfléchir ensemble dans chaque pays à ce qu'on peut faire.
Alors, on parlait du programme d'élimination d'ici 2030. Il y a 5 orientations stratégiques, information, intervention, équité, financement, innovation. Quel est, selon vous, l'enjeu majeur, docteur Mélin? Sur quoi est-ce qu'il faut vraiment insister?
L'information.
Vous êtes tous les deux d'accord?
Tous les deux d'accord. L'information, c'est comme je vous dis, dans ma pratique, sur un malade dépisté pour le virus de l'hépatite B, 80% de mes malades, voire 90%, ne connaissent pas le statut de leur entourage au niveau de l'hépatite B.
Mais alors, rêvons, un État africain décide de faire un dépistage de masse, comment faire? Est-ce que ce serait vraiment réalisable? Avec les routes en mauvais état, avec les petits villages reculés, professeur Sombier.
Ben là, il y a les tests de diagnostic rapide, donc voilà, qui sont là, qui il y a des tests qui sont validés par l'OMS et
tout. À faible coût, hein, 50 centimes d'euros, je crois.
Absolument, à faible coût. Donc c'est d'excellents tests qui peuvent faire un premier donc dépistage et après on va confirmer ça. Ça c'est possible.
Alors ils sont donc, pas, ils sont pas à faible coût. Ils sont pas à faible. Ils sont à 50 centimes dans le VIH. Ils sont à plus de 10 euros dans l'hépatite. Donc il faut baisser les coûts. Une goutte de sang, un test positif. Et on fait les choses.
Messieurs, vous restez avec nous. On se retrouve dans un petit peu plus de 3 minutes après le Flash Info, priorité santé à suivre.
Priorité santé. Igor Strauss.
Bienvenue si vous nous rejoignez pour cette deuxième partie de Priorité Santé à l'occasion de la 11e édition de la Conférence internationale d'hépatologie qui se tient aujourd'hui et demain à Paris. Nous faisons le point sur la prise en charge des hépatites B et C qui provoquent chaque année la mort de plus d'1 300 000 personnes. Alors comment réduire la mortalité due aux hépatites virales? Quelles sont les avancées en termes de traitement? Suite de notre débat avec nos invités, le professeur Roger Sombier, gastro-entérologue et hépatologue à l'hôpital Yalgado Ouédraogo de Ouagadougou au Burkina Faso, et le docteur Pascal Mélin, chef du service de médecine interne du centre hospitalier de Saint-Dizier dans la région Champagne et président de SOS Hépatite Fédération. Et puis en fin d'émission, nous retrouverons la chronique nutrition de Stéphane Besançon, nutritionniste et directeur de l'ONG Santé Diabète. Et évidemment, comme tous les jours, nous attendons vos questions, vos réactions au 33 1 84 22 75 75.
RFI.
Alors messieurs, dans la première partie de l'émission, nous avons parlé de dépistage et de vaccination, entre autres. Abordons, si vous le voulez bien, à présent la question cruciale des traitements et de leurs coûts. Aujourd'hui, quels sont les traitements les plus efficaces, les plus utilisés pour les hépatites B et C, professeur Sombier?
Alors concernant l'hépatite B, donc les traitements les plus efficaces que nous avons en fait sont des traitements donc en prise orale. Donc nous avons deux molécules, donc le tenofovir qui ne donne pas de résistance, donc qui est très bien toléré, efficace, mais qu'il faut prendre donc pour une longue durée, et l'entecavir. Et la troisième molécule, c'est de l'interféron pegylé, mais qui se fait en injectable, qui a une efficacité moindre avec beaucoup d'effets secondaires. Donc c'est un an de traitement et puis on arrête. Donc clairement, nous avons trois molécules, on va dire, qui sont validées, une en injectable et deux en prise orale, en sachant que celle vraiment qui est disponible dans la plupart des pays africains et qui est active également sur le VIH, c'est le tenofovir. Ça, c'est pour le virus de l'hépatite B. Pour le virus de l'hépatite C, nous avons eu une évolution, puis une révolution avec des traitements donc dits antiviraux directs, qui donnent des taux
AAD.
Les fameux AAD, donc qui donnent des taux de guérison donc supérieurs à 95 voire 100%, donc efficace sur tous les génotypes, prise orale très bien tolérée. Mais le gros problème, c'est que actuellement, le docteur Pascal Mélin nous le dira tout à l'heure. Hein, je crois que je voyais sur les pages internet de l'association, pendant longtemps, les malades en France ont attendu les traitements de l'hépatite C, et en fait, maintenant, ils attendent la guérison, parce que les médicaments sont là, et ils doivent venir se faire traiter. Mais en Afrique, c'est le contraire. Donc, l'hépatite C, c'est moins fréquent dans mon pays, mais le gros problème, c'est que les quelques malades que nous avons, le traitement, donc, n'est pas disponible au large public. Il est disponible en pharmacie pour ceux qui peuvent l'acheter. Donc à Ouaga, j'ai le sofosbuvir et le velpatasvir, et le sofosbuvir et le daclastasvir. Et le traitement va avoir un coût mensuel en gros de 285 300 francs CFA, soit 457 euros ou 434 euros par mois. Fois 3 mois, ça fait 1300 euros.
Et là, vous abordez la question cruciale du coût de ces traitements, docteur Mélin. Moi, j'avais certains chiffres, vous allez me dire si c'est encore le cas, mais en 2015, le traitement de 12 semaines pour l'hépatite C coûtait 126 000 euros. Oui, c'est encore d'actualité. Je crois que ça a baissé. On est plutôt dans les 50 000 aujourd'hui en France, c'est ça?
On est même à moins que ça. Les derniers traitements qui arrivent là sont à moins de 30 000 euros, les traitements.
Mais ça reste considérable.
Ça reste considérable et je veux dire, aujourd'hui, nous, en tant qu'association, on dit que pour guérir d'une maladie, même si c'est 200 euros, ce sera toujours trop cher. L'important, c'est que la solidarité fonctionne et que les gens puissent se soigner, quel que soit le coût, qu'on puisse avoir accès aux soins. Et c'est ça qui est important.
Oui, mais nous, en France, on a la sécurité sociale. Oui. Ce n'est pas le cas en Afrique. Là, les patients sont démunis. J'imagine que ça doit créer des drames, professeur Sombier.
C'est des drames, vous pouvez le dire. C'est vraiment des drames. Donc, pour l'hépatite B, Nous avons en fait le tenofovir, donc via la centrale d'achat des médicaments essentiels génériques, à 4 euros la boîte dans mon pays. C'est donc accessible, c'est moins cher, c'est pas le cas dans tous les pays africains. C'est le coût mensuel, 4 euros par mois. Le frein, la barrière en fait pour le diagnostic de l'hépatite B, c'est la charge virale. C'est le diagnostic moléculaire, examen incontournable, indispensable pour le diagnostic, surveiller l'efficacité du traitement. C'est là que ça bloque. La charge virale, elle est disponible, on a les outils à l'hôpital, mais toujours des manques de réactifs. Donc du coup, les malades vont le faire en privé, et la plupart ça va en France, et le coût du test, ça va coûter autour entre 20 000 francs CFA et 57 000, 60 000 francs CFA, soit en fait entre 30 et 86 euros.
Donc non, pour ce, qui est considérable,
ce qui est considérable à l'échelle
africaine.
Absolument.
Docteur Mélin, comment expliquez-vous ces tarifs exorbitants? C'est dû au monopole des deux laboratoires, Gilead et BMS, Bristol Myers Squibb. Comment vous l'expliquez concrètement?
On paye de plus en plus cher les nouveautés dans le monde médical. La durée de vie d'une molécule, les antiviraux de première génération ont vécu un an et demi. C'est-à-dire que les laboratoires qui ont sorti ces premiers antiviraux, ils ont eu un an et demi pour les rentabiliser. Donc aujourd'hui, la peur de voir arriver des nouvelles molécules fait qu'on met des prix exorbitants pour revenir vite sur les investissements. Or qu'avant, on avait 10 ans devant nous pour quand on sortait une molécule pour amortir. Donc aujourd'hui, l'important, c'est pas que le prix soit cher, mais c'est que le politique...
Pour vous, c'est pas un problème?
Non, parce que si on fait politiquement, moi je peux entendre que les gens aient besoin de rentrer dans leurs investissements. Par contre, il faut qu'il y ait des engagements de volume. C'est-à-dire qu'il est hors de question que ce prix-là, à 100 000 euros, comme vous le disiez tout à l'heure, reste pendant des années. Dès que le volume augmente en nombre de traitements, le prix doit baisser. Et aujourd'hui, on peut imaginer d'être à moins de 20 000 euros le traitement. On est à 400 euros, les Égyptiens nous disent qu'on peut traiter à 200 euros et limiter les traitements à 8 semaines. Donc je veux dire, il faut réfléchir à ça, il faut arriver à ça. Et il faut mettre en place des solidarités nord-sud, comme on l'a fait dans le VIH, que les pays riches acceptent de payer plus cher leur traitement et que de l'autre côté, on accepte d'avoir des médicaments beaucoup moins chers, voire à coût réel en Afrique.
C'est ça, il y a des ONG comme MSF hein, qui ont réussi à avoir des prix d'accès, comme on dit. Alors c'était 2750 euros le traitement de 12 semaines pour l'hépatite C, mais ça reste quand même des chiffres conséquents et du coup, une ONG comme MSF ne peut prendre en compte que certains patients et pas tous. Ça aussi, c'est problématique, professeur Sambier.
Absolument, je suis tout à fait d'accord avec vous. Donc le combat ici, ça va être donc de baisser les coûts, de baisser donc le verrou, donc le frein et la barrière donc pour le diagnostic et de permettre donc un accès au traitement donc à la majorité des malades.
Parce qu'on dit souvent qu'il faut trouver de nouveaux médicaments, mais à quoi bon s'ils sont inaccessibles pour la plupart des patients, docteur Mélin?
Souvenez-vous, il faut pas avoir... Souvenez-vous de la pénicilline quand elle arrivait dans l'après-guerre. Elle était très chère et on traitait les gens de façon très parcimonieuse. Et puis aujourd'hui, c'est quelque chose qui est accessible maintenant partout, même à l'échelon planétaire. On traite même les animaux. Et je crois qu'on est... Mais simplement, on n'attend plus. Je veux dire, là, on a des traitements. La communication internationale fait que quand un traitement innovant sort quelque part dans le monde, on veut pouvoir l'avoir 3 jours après à un prix accessible dans ma culture, dans mon pays. Et c'est là-dessus qu'il faut travailler. Le prix, pour moi, c'est pas le combat de nous malades. Le prix, il sera toujours trop élevé. Il y a des gens qui ne pourront toujours pas se payer leur traitement. La question, c'est l'accessibilité au traitement. Qu'est-ce qu'on peut faire pour que tout le monde puisse accéder? Un traitement pour tous, une guérison pour chacun, c'est notre slogan, et pas à l'échelon de la France, à l'échelon international. C'est à ça qu'il faut travailler. Si le frein, c'est l'argent, on travaille là-dessus. Si le frein, c'est le dépistage, on travaille là-dessus. Et je pense qu'il faut faire les deux aujourd'hui.
Professeur Sambier, il y a 6 ou 7 ans, j'étais en reportage au Cameroun et des patients, je dis bien des patients, me disaient qu'ils allaient chercher SIDA. C'est-à-dire qu'ils allaient tenter volontairement de contaminer le virus du sida afin d'être traité pour leur hépatite C. Est-ce que ça arrive encore aujourd'hui?
Ça arrive encore aujourd'hui dans certains pays africains. Je sais que pour ma part, donc, dans mon pays, il y a le programme SIDA qui est là, qui offre beaucoup de facilités pour les malades, donc, infectés par le VIH. Les traitements, donc, sont quasiment gratuits. Ils ont un soutien au niveau du bilan, donc, pour l'examen et le suivi. Donc, ce qui n'est pas le cas pour les hépatites virales.
Mais s'ils n'ont qu'une hépatite, il n'y a rien.
Il n'y a rien. L'hépatite B n'est pas prise en charge. Mais par contre, j'ai des pays voisins où effectivement...
Donc, co-infection, là-bas, on est aidé?
Absolument. Mais mono-infecté, on n'est pas aidé du tout.
Ça, c'est une aberration, docteur Mélin.
Et complètement, c'est une aberration. Une histoire que je vous raconte qui est encore plus folle. En Algérie, le tenofovir était donné par les programmes internationaux d'aide au traitement du VIH, on donnait du tenofovir. Par contre, les gens qui avaient une hépatite B n'avaient pas accès au tenofovir. Et on a rendu des traitements de tenofovir qu'on n'avait pas utilisés dans le VIH, or que des gens l'attendaient dans l'hépatite B. C'est complètement fou, quoi.
Mais comment on explique ces absurdités? Qui décide en lieu et comment
Parce qu'on a des...
les professionnels que vous êtes, vous ne pouvez pas dire, attendez, il faut arrêter la mascarade.
Parce qu'on a des politiques qui restent cloisonnées. On a des plans VIH et après, on a des plans malaria, des plans tuberculose. Or, nous, les plans VIH, ils doivent... On a compris des choses depuis l'épidémie de VIH dans les années 80. L'épidémie d'hépatite C, elle est arrivée en 90. L'hépatite B, on l'a négligée. Aujourd'hui, on doit apprendre de nos erreurs du VIH et de ce qu'on a fait de bien. Et donc, ce qu'on a fait de bien, c'est de trouver des solidarités nord-sud et des financements. Donc, aujourd'hui, on peut le faire dans l'hépatite C. Et on doit pouvoir arriver à donner des traitements gracieusement dans les pays africains qui nécessitent et qui ont des épidémies importantes à traiter.
Professeur Sombier, j'imagine que vous êtes d'accord avec le docteur Mélin.
Je suis tout à fait.
Alors, l'innovation de tests de dépistage, de médicaments ou de vaccins est-elle un préalable à l'atteinte des objectifs fixés pour 2030, à savoir l'élimination, selon vous, professeur Sombier? Ou est-ce qu'on peut faire aussi bien avec ce qu'on a aujourd'hui?
On peut faire aussi bien avec ce qu'on a aujourd'hui, absolument. Je pense qu'on a déjà tout ce qu'il nous faut actuellement, donc on peut faire aussi bien.
Mais alors pourquoi certains cherchent absolument à innover, docteur Mélin? Parce que ça a un coût aussi, on pourrait...
L'innovation, elle a un coût. L'important, c'est de réfléchir aux freins. On a longtemps dit, il faut faire des biopsies hépatiques. Aujourd'hui, on a des alternatives à la biopsie hépatique, que sont FibroScan, que sont les tests sanguins. Pour autant, comment on va faire pour faire... On a des buvards, les charges virales dont on parlait tout à l'heure. Aujourd'hui, on peut mettre une goutte de sang sur un buvard et l'envoyer par la poste pour se faire traiter. On n'a pas forcément besoin que la prise de sang aille dans un laboratoire au plus près. Les buvards ont été intéressants dans le VIH. Qu'est-ce qu'on attend pour utiliser les buvards en Afrique, même en pleine brousse? On peut faire des prises de sang avec des gouttes de sang et avoir des résultats.
Écoutez Priorité Santé sur RFI. Aujourd'hui, nous parlons des hépatites avec nos invités. Le docteur Pascal Mélin, chef du service de médecine interne du centre hospitalier de Saint-Dizier dans la région Champagne et président de SOS Hépatite Fédération. Et le professeur Roger Sombier, gastro-entérologue et hépatologue à l'hôpital Yalgado Ouédraogo à Ouagadougou au Burkina Faso. Et évidemment, on attend vos questions, vos réactions au 33 1 84 22 75 75. Et nous sommes en ligne avec Prisca qui nous appelle d'Abidjan. Bonjour Prisca.
Bonjour Igor, bonjour docteur.
Nous vous écoutons Prisca.
Oui, bon, j'ai été diagnostiquée, bon disons, j'ai fait des tests au cours de ma grossesse. Voilà, donc ils ont vu des traces d'hépatite. Donc j'aimerais savoir... J'ai pas encore consulté, j'ai consulté aucun médecin. Bon, plus par peur, comme vous avez dit, voilà, de savoir un peu des choses. Je m'inquiète plus pour mon enfant parce que je l'allaite. Voilà. Est-ce que j'ai fait le vaccin à l'enfant à l'accouchement?
Voilà. Il a été vacciné dès la naissance.
Oui, il a été vacciné dès la naissance. Donc, est-ce qu'il n'y a pas encore des risques d'avoir ce virus-là?
Eh bien, écoutez, on va demander au professeur Sombier, au docteur Mélin, ici présent. Professeur Sombier, tiens, qu'est-ce qu'on peut répondre à Prisca?
Ben, écoutez, chère madame, ce que je peux vous dire, c'est que Ne vous inquiétez pas donc déjà pour l'allaitement de votre enfant, donc il n'y a aucun risque. L'hépatite B, l'hépatite C, vous pouvez allaiter votre enfant sans risque. Donc ce qui est bien, c'est que vous dites avoir vacciné votre enfant donc à la naissance, c'est très bien. Mais vous, vous avez été dépisté lors de la grossesse, mais vous n'avez pas eu en fait de suivi particulier. L'élément essentiel, c'était en fait de savoir donc quel était votre statut en fait en termes de risque donc de contagion pour bébé. C'est ce qu'on appelle la charge virale. Bon, ça n'a pas été fait, mais c'est très bien que vous ayez vacciné votre enfant. Il a 6 mois, votre enfant, actuellement, je crois. Donc, ce qu'il faut faire, c'est simplement, donc, quand l'enfant aura donc entre 9 mois et 1 an, faites-lui donc une prise de sang pour contrôler sa réponse vaccinale au vaccin. Vous allez voir si, donc, les mesures prises ont marché. L'enfant va être négatif et il aura produit des anticorps, donc, contre le virus de l'hépatite B. Mais pour vous-même, n'hésitez pas donc à consulter donc avec j'ai d'excellents collègues médecins donc hépatologues à Abidjan en Côte d'Ivoire qui vont donc vous faire un bilan complémentaire pour savoir exactement à quel niveau donc est votre infection. Et surtout, ils vont vous recommander de faire un dépistage à votre époux si vous avez d'autres enfants et à votre fratrie également.
Donc il est important que Prisca aille consulter quand même.
Absolument.
Hein. Bon, Prisca rassurée pour votre enfant?
Oui, rassurée, mais bon, un peu inquiète maintenant pour moi par rapport au prix. Voilà, là, c'est, je ne sais pas. Là,
par
je
rapport
sais que
au prix de quoi
étape,
par rapport au prix du médicament, c'est ça, à
voilà,
ça que vous pensez, Prisca?
Voilà.
Non, mais rassurez-vous, en fait, une fois qu'on est positif pour l'infection, donc ça ne veut pas dire qu'il faut obligatoirement être traité tout de suite. Non, vous devez d'abord faire un premier bilan qui va donner un instantané de votre maladie. Mais en fait, il faudra faire plusieurs contrôles afin de pouvoir savoir si vous avez une maladie en fait qui est contrôlée par votre organisme, votre système immunitaire, donc auquel cas le traitement n'est pas nécessaire tout de suite. Voilà. Mais à l'issue des examens, donc s'il y a lieu de vous traiter, le médecin va vous traiter. Je sais que le tenofovir est disponible donc à Abidjan. Vous avez un programme national de lutte contre les hépatites virales. Avec donc une charge virale qui est disponible à 4000 francs CFA donc dans le cadre du programme. Et vous avez le tenofovir disponible à 5000 francs CFA, la boîte à Abidjan.
Bah écoutez, merci infiniment Prisca et j'espère que les explications du professeur Sombier vous auront été utiles. Merci à vous, très bonne journée à Abidjan. On va partir au Togo à présent, à Blita. Nous sommes en ligne avec Pitch. Bonjour Pitch.
Bonjour Monsieur Igor et bonjour à toute l'équipe de Priorité Santé.
Soyez le bienvenu, Pitch. Quelle est votre question?
En fait, j'ai deux questions pour mon professeur. La première est la suivante. À l'issue d'un test en 2009, on a diagnostiqué l'hépatite B dans mon sang. En 2013, j'ai fait un examen de charge virale, à l'issue duquel le docteur me dit que je n'ai pas besoin de traitement. Alors, comme explication, il dit que la charge virale est trop bas, donc la maladie pouvait donc disparaître d'elle-même. Mm-hmm. Pourvu, bien sûr, que j'observe donc un certain nombre de règles de vie. Alors, voilà que la semaine est passée, j'ai refait le test, n'est-ce pas, qui se révèle toujours que, qui révèle, n'est-ce pas, que la maladie est toujours, n'est-ce pas, moi. Alors, j'aimerais voir si le docteur avait totalement tort. Ça, c'est la première question.
Et posez la deuxième, comme ça, après, je poserai toutes ces questions au médecin directement.
Ah, d'accord. Alors, la deuxième, étant donné que ma charge virale est relativement assez bas, je peux donc continuer à consommer modérément, sinon occasionnellement de l'alcool?
Eh bien, écoutez, on va poser les deux questions au docteur Mélin, tiens, puisque c'est le professeur Sombier qui a répondu la première question. Donc, pas la parole au docteur Mélin.
Alors aujourd'hui, il faut comprendre qu'il y a deux choses. Il y a l'analyse de la situation d'un patient pour éviter qu'il contamine et savoir s'il va prendre des risques pour lui-même. On a vu avec la première question le risque de la transmission mère-enfant. Là, ce que vous posez comme question, Pitch, c'est bien, pour moi-même, j'ai une charge virale basse, on me dit qu'il ne faut pas de traitement. Eh bien, c'est vrai, puisque seuls 10 à 15% des gens porteurs d'hépatite B vont avoir un virus qui va se mettre à faire des dégâts et les amener à la cirrhose. Donc, 90% des patients, aujourd'hui, on va leur proposer une simple surveillance. Ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas contagieux, il faudra protéger l'entourage. Mais par contre, pour eux, ils ne vont pas évoluer vers la cirrhose. Et ça, c'est quelque chose qui est parfois très difficile à comprendre pour les patients. Je suis malade, mais on ne me traite pas. Et comme vous le dites bien, le problème pour nous, c'est qu'il va y avoir des variations au cours du temps. Un virus qui semble peu actif à un moment peut se réveiller. Et j'ai envie de répondre, moi, ce qu'on dit toujours à l'association, c'est un feu de forêt. Il faut pas mettre d'huile sur le feu. Et en fait, l'huile sur le feu, c'est l'alcool, par exemple, ou ça va être la prise de poids. Et en fait, un virus, on peut avoir un feu qui est dormant, qu'on surveille, on dit on a le seau d'eau, on a la lance à incendie, on regarde, il n'y a pas besoin de l'éteindre pour l'instant, mais s'il se réveille, il va falloir peut-être tirer très fort et sortir l'eau pour éteindre ce feu-là. Et bien voilà, on en est là. Alors effectivement, il y a des risques de, en termes de qualité de vie, de dire faites attention à l'alcool, même si votre virus ne nécessite pas un traitement. Et ça, c'est un peu compliqué pour les patients à comprendre. Et
c'est-à-dire qu'il peut quand même boire une petite bière de temps en temps, ou vaut mieux qu'il s'abstienne?
Alors, la question, c'est effectivement, oui, on peut se faire plaisir en buvant une petite bière de temps en temps. Si vous me dites...
Ça doit rester exceptionnel, c'est ça?
Exactement. Si c'est 4 bières par jour, on va dire, là, c'est trop, et ça risque effectivement de mettre de l'huile sur le feu.
Bon, bah écoutez, merci infiniment, Pitch, en tout cas, de nous avoir appelé de Blita au Togo, et j'espère que les explications du docteur Mélin vous convenaient. Mais si on va parler un petit peu des populations clés, que ce soit les travailleuses du sexe, les toxicomanes, qui sont souvent négligées, est-ce que, selon vous, ils sont davantage pris en compte avec ce plan d'élimination de la maladie en 2030? Professeur Sombier.
Ben, davantage pris en considération... Je ne pense pas particulièrement ce plan, en fait.
C'était une question piège, parce que
oui, voilà,
la réponse allait de soi, en fait. Excusez-moi, professeur.
Oui, parce que là, ça concerne, en fait, tout le monde. Donc.
Alors, moi, je répondrais en disant, oui, c'est une population clé pour nous en 2018 dans les pays développés. SOS Hépatite, par exemple, dans des actions qui font, par exemple, dans les Ardennes, on a eu des actions envers le public qui se prostitue, et c'est fondamental de faire la promotion de la vaccination, du dépistage, et pour pouvoir accéder au traitement. On disait il y a quelque temps, de façon, pour limiter l'épidémie, il faut traiter les prostituées et les chirurgiens, parce que c'est des gens qui sont à fort risque de contaminer les autres. Et ben, je crois que ça, c'est important. Et l'usager de drogue est là de la même façon. Et ne pas le reconnaître dans les pays africains, c'est aussi un problème. Il faut bien connaître la prostitution et bien analyser dans les programmes nationaux où est-ce que vont se passer les nouvelles contaminations.
Et surtout développer les programmes de réduction des risques avec les échanges de seringues.
Y compris en prison.
Priorité santé sur RFI.
Et priorité santé, suite et fin, comme tous les lundis, nous passons à la chronique nutrition de Stéphane Besançon, nutritionniste et directeur de l'ONG Santé Diabète. Bonjour Stéphane Besançon.
Bonjour Igor.
Alors pour démarrer cette chronique, pouvez-vous nous rappeler les grands principes pour adopter une alimentation équilibrée, Stéphane?
Alors tout d'abord, Igor, il y a l'aspect quantitatif de notre alimentation. En effet, on sait tous qu'on doit manger pour combler nos dépenses énergétiques de base qui vont correspondre à ce que l'organisme a besoin pour son fonctionnement. Mais on a aussi besoin de couvrir les dépenses énergétiques qui sont liées au travail musculaire ou alors au travail même tout simple, lors d'activités physiques par exemple. Alors ces besoins vont être exprimés en nombre de calories par jour qui vont être nécessaires pour le fonctionnement de l'individu. Et même si elles varient entre le sexe ou l'âge et des périodes particulières de la vie, on peut prendre quelques repères simples. Un homme avec une activité physique habituelle devra avoir un apport à peu près de 2500 calories par jour et une femme autour de 2000 calories par jour. Alors ces besoins vont augmenter avec l'augmentation de l'activité physique, comme je le disais précédemment, mais par exemple, si on fait une marche lente d'une heure, on va dépenser entre 100 et 150 calories, tandis qu'une course va dépenser 300 à 500 calories supplémentaires.
Alors, une fois que l'on respecte les apports quantitatifs, quels sont les choix qualitatifs à privilégier ?
Alors, pour adopter une alimentation équilibrée, on peut retenir 5 grands principes. Alors, le premier que tout le monde connaît, c'est de respecter au maximum les rythmes alimentaires en respectant les 3 repas par jour tout en limitant au maximum les grignotages entre les repas. Il va être aussi important de diversifier et intensifier la consommation de fruits et légumes en essayant de respecter au maximum la recommandation d'une consommation de 5 fruits et légumes par jour, d'assurer un apport adéquat en micronutriments, c'est-à-dire les vitamines et les minéraux, mais aussi en protéines. Avoir un apport mesuré, ça c'est très important pour nos auditeurs, j'insiste à chaque chronique, en limitant les lipides, les sels et les sucres. Et puis bien sûr, s'hydrater correctement avec de l'eau, qui est la seule boisson nécessaire, ça aussi il faut le répéter à chaque fois, à notre organisme, en essayant d'avoir un apport moyen de 1,5 litre d'eau par jour en moyenne.
Pourquoi l'adoption de labels peut-elle aider à faire de meilleurs choix, Stéphane ?
Alors, parce qu'il est plus facile de faire des choix alimentaires sains lorsque déjà on achète des produits bruts et qu'on les cuisine nous-mêmes. Or, aujourd'hui, on sait que dans une majorité de pays, la population consomme pratiquement 70% d'aliments produits par l'industrie agroalimentaire qu'on appelle des aliments transformés ou bien même souvent maintenant des aliments ultra transformés. Ils ont beaucoup de succès car ils sont prêts à être consommés, leur composition les rend très attrayants, ils sont souvent peu chers car ils sont préparés avec des ingrédients à faible coût. Mais malheureusement, ils présentent souvent des caractéristiques nutritionnelles qui ne sont pas très intéressantes parce qu'ils sont très caloriques et avec une composition très déséquilibrée. On sait par exemple qu'ils sont souvent très riches en graisse, en sucre et en sel, tout en étant pauvre en fibres, en minéraux et en vitamines. Alors il est très difficile pour un consommateur qui se promène dans un supermarché de lire les étiquettes qui sont souvent dans un langage scientifique de tous les produits et de pouvoir interpréter et analyser leur contenu exact. Aujourd'hui, c'est quand même une problématique majeure. Et c'est ici que les labels ou les scores nutritionnels vont avoir un grand rôle. Ils vont permettre, à partir d'un code couleur ou de pictogramme, de voir directement sur la boîte d'un produit la qualité nutritionnelle ou pas de ce produit.
Pouvez-vous nous donner un exemple de label qui a été évalué, qui fonctionne ?
Alors la France est en pole position, j'allais dire, puisqu'elle a testé, va tenter de passer à échelle ce qu'on appelle le Nutri-Score. Alors c'est un logo qui a 5 couleurs, il est apposé sur la face avant des emballages. Alors ce Nutri-Score, il est considéré d'une échelle de 5 niveaux, avec une lettre et une couleur qui informe le consommateur directement, visuellement, c'est très très bien fait, sur la qualité nutritionnelle du produit. L'échelle va du produit le plus favorable sur le plan nutritionnel, qui va avoir la lettre A avec une couleur verte, au produit le moins favorable sur le plan nutritionnel, qui va avoir une lettre E avec une couleur rouge. Et bien sûr, on a des intermédiaires entre ces deux-là pour donner une palette large de choix.
Merci beaucoup Stéphane, je suis désolé, je tronque la dernière question de votre chronique parce que le temps me manque, mais merci infiniment, puis évidemment on vous retrouve la semaine prochaine. Messieurs, quand on a une hépatite B ou C, est-ce qu'il faut contrôler son alimentation de façon particulière ? Professeur Sombier, en une phrase.
En une phrase, hépatite B ou C, pas besoin de régime alimentaire, vous mangez ce qui vous plaît, vous mangez comme d'habitude, tout ce qu'il faut éviter, c'est simplement une alimentation saine et variée.
Et équilibrée. Écoutez, merci à tous les deux d'être passés dans ce studio, c'est la fin de cette émission, vous l'avez deviné, qui était réalisée par Didier Bleu et préparée par Assetou Samaké et Ophélie Larsen. On se retrouve demain, très bonne journée à tous.
C'est Priorité Santé avec Sono Assurance, qui vous souhaite une bonne et heureuse année, pleine d'assurance. Sono Assurance, notre métier, l'assurance.